c'est pour nous un jour d'allégresse qui marquera un nouveau pas en avant de l'Afrique vers un avenir meilleur.
En vertu du droit inaliénable qu'a tout peuple de disposer de lui-même, je proclame solennellement l'indépendance.
L'indépendance, comme la liberté, est un bien. Se conquiert et se reconquiert chaque jour. Et personne n'est de trop pour la préserver de toutes ses forces et de toute son âme.
Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develay-Mazurel, Laure Alary. Bonjour à tous. Cette semaine, on continue de voyager au fil des ondes et des indépendances pour la suite et fin de notre série documentaire « Indépendance les jours d'après ». Parmi les 17 pays d'Afrique qui soufflent cette année leurs 60 bougies, nous nous serons arrêtés en RDC, en Côte d'Ivoire et enfin au Mali. Le Mali, où nous étions déjà la semaine dernière et où l'on vous propose d'achever ce grand voyage. Là, depuis Bamako, Vladimir Cagnolari a capté, sur les antennes et dans les couloirs de la radio nationale, les échos de l'histoire tumultueuse du Mali, où il est question d'unité, de liberté et de pouvoir.
Malienne, Malien. Aujourd'hui, 19 novembre 1968, l'heure de la liberté a sonné.
Le jour même, c'est-à-dire le 19 novembre 68, quand Modibo est déposé, vous vous la prenez à la radio même.
À la radio, en même temps que tout le monde, il y a le président Moussa Traoré là, qui dit « Lieutenant Moussa Traoré, le régime dictatorial de Modibo Keïta a chuté ».
Le régime dictatorial de Modibo Keïta et de ses valets.
Je me rappelle de cette phrase. Alors c'est lui-même qui l'a dit, Moussa Traoré. En direct, au studio. Moussa était là. C'est lui-même. C'est lui-même.
En entendant la formation d'un gouvernement et d'institutions politiques démocratiques issues d'élections libres. Vive le Mali. Vive la République. Vive l'armée.
Et le jour même, vous êtes allé à la radio?
Je devais venir le lendemain. Et je suis allé le lendemain. On était obligés. On est des fonctionnaires de l'État, parce que c'est la radio de l'État, Radio Mali, c'est la radio de l'État, on est payé pour ça. Alors on disait, Général Moussa Traoré, secrétaire général de l'Union démocratique du peuple malien, président de la République, chef de l'État. Les cinq, il fallait le dire.
Si on oubliait un, c'était...
Alors là...
Et Aissata Cissé, si vous étiez avec nous pour la première partie la semaine dernière, vous ne pouvez pas avoir oublié cette merveilleuse doyenne, première femme malienne à animer les émissions de Radio Soudan. C'était en 1959, avant même que le pays ne devienne indépendant. C'est elle qui nous avait guidés dans les années Modibo Keïta, premier président du Mali, et elle était toujours à la radio pendant le règne de son successeur, le lieutenant, puis colonel, puis enfin général Moussa Traoré, secrétaire général de l'UDPM, président de la République, bon, je ne vais pas tous les dire quand même. En tout cas, oui, le régime avait changé, mais les habitudes, pas beaucoup. Et le sommet de l'État gardait la mainmise sur cet outil unique, Radio Mali. Les slogans socialistes avaient disparu, la mobilisation des masses aussi, et toute référence au président d'avant était mal vue. Mais bon, ça, c'était la politique. En dehors de cela, les journalistes et animateurs avaient de la place pour faire de la radio ce qu'elle devait être, un moyen d'éducation pour tous. En 1977, Maurice Oumano, griot et enseignant, entrait à la radio.
Je suis fils de paysan. J'ai compris depuis les premiers cycles que vraiment si le Mali doit bouger, c'est à partir des villages. Il faut que les villageois arrivent à comprendre parce que l'école n'est pas partout. Mais la radio pouvait être l'instituteur de tout le monde.
Comment ?
Bon, tout le monde écoute. C'est un pays d'oralité. On n'a pas notre écriture commune. Mais tout le monde écoutait la radio. Et puis tout le monde entendait à la fois, en même temps. Si tu n'as pas compris, quelqu'un va te dire non, non, c'est pas ce qu'on a dit, c'est comme ça qu'on a dit. Donc, la radio était l'instituteur de tout le village. Et puis, au fur et à mesure, les gens ont compris. Il y avait même des émissions, N'Golo, qui imitait l'enseignant et l'élève, des dialogues, etc. Et puis, quelquefois, ils ont commencé à mettre des petits micro-programmes de sensibilisation. Ton argent s'en va comme l'eau entre les doigts. Garde-les à la caisse d'épargne. Ainsi, il te servira. Regarde cette femme. N'est-elle même pas un problème pour son mari? Elle s'habille comme une reine. Son royaume est un taudis. Des slogans de ce genre. Donc, des mots de sensibilisation comme ça. Donc, on a commencé à comprendre que la radio pouvait jouer un rôle éminemment éducatif.
Population de la commune de Morty, en vue de contrôler la rougeole et la méningite dans notre pays, le ministère de la Santé entreprend une vaste campagne de vaccination.
Mais il y avait une autre émission que j'animais, ça c'était tout juste consacré au monde rural, qu'on appelait Poi Campoi, les vendredis.
Ah, c'est vous qui faisiez cette émission et j'avais entendu parler de ça. Racontez-moi, oui. C'était quoi Poi Campoi?
Poi Campoi, Mbendiani, Radio Malika Doumandou. Ça c'était tout juste pour les paysans, pour montrer aux paysans qu'on peut gagner sa vie, à condition qu'on respecte ce que les agents du développement rural te conseillent de le faire.
En fait, les agents de développement rural dont vous parlez, Maurice, ils faisaient partie de l'administration malienne et ils vulgarisaient les connaissances agronomiques plus modernes, on va dire, pour, développer l'agriculture.
C'est ça. Non, justement, on les appelait les opérations de développement. Mettez de l'engrais, comment dresser les animaux, etc. On fait les interviews et ça marchait très bien. Surtout, la musique qui faisait les louanges du brave paysan. Moi, je suis venu à la radio. Je me suis dit, bon, la radio classique, là, est en train de travailler pour les hommes qui nous dirigent. Mais et nous-mêmes? Qu'est-ce que nous-mêmes, nous faisons? Qu'est-ce que je peux faire pour nous-mêmes? Comme ça, j'ai commencé à dire que mais les ménagères, là, qui sont à la maison, après la musique, on a besoin de les sensibiliser, on a besoin de les informer, de les former. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, vas-y. Donc, je me rappelle encore, la première émission que j'ai eu à faire, c'était comment chasser une mauvaise odeur d'un frigo sans trop peiner.
Et alors?
Donc, il fallait bouillir tout juste de vinaigre, avec un récipient que tu fermes très bien, tu débranches ton frigo, puis tu ouvres le récipient, et puis l'odeur du vinaigre fait chasser tout de suite cette mauvaise odeur, puis sans que tu ne laves le frigo, la mauvaise odeur est partie.
Comment ça s'appelait cette émission?
8h, 10h, parce que ça prenait
2h.
Donc l'émission a pris le nom 8 d'ici. Alors là, les femmes ont commencé à acheter elles-mêmes leur propre radio. Sinon, la radio, c'était pour les hommes.
Comment? Pourquoi?
Oui, parce que c'était d'abord pour montrer que tu as augmenté de grade. Parce que quand tu as une radio, c'est que tu augmentes de grade. Et puis, bon, c'est un instrument d'homme. Les femmes ont trouvé que c'était un instrument d'homme. Mais finalement, puisque le truc intéressait, c'est ces conseils pratiques-là qu'on adressait à ces femmes-là qui sont à la maison. Alors là, les femmes elles-mêmes ont commencé à acheter leur radio. Donc j'ai fait descendre une autre femme qui s'appelle Fatoumata Koulibaly. Je lui ai dit, viens m'aider. Alors on a commencé à être en dialogue.
Donc, Maury m'a dit, tiens, viens avec moi, on va animer ensemble. Quand je suis rentrée derrière le micro, mon cœur a fait boum, comme ça là. J'ai fait comme ça et j'ai commencé à parler. Voilà, c'était parti. Il y avait une émission qui s'appelait Yirinintou, planter des arbres. Bon, l'émission passait dans Sahel Vert. Le même Maury Soumanou était là. Donc, Maury m'a dit, tiens, viens avec moi. On va animer ensemble. On a commencé à parler en langue, comment planter les arbres pendant l'hivernage. L'arbre, c'est quoi et quoi, ça peut servir à quoi. Et le chef de la section animation rurale, il a apprécié.
Ça, c'était vos débuts à la radio. On était en quelle année?
1981.
À cette époque, la télé venait d'arriver aussi?
Non, en 1981, il n'y avait pas la télé. C'était la radio.
Et toute puissante.
Oui, la puissante radio. Et puis, c'était la seule radio sur le territoire malien. Sauf BBC et autres qu'on écoutait ici avec Radio France. Sinon, pas d'autres radios nationales.
Et donc, elle avait un poids énorme.
Bien sûr, bien sûr. Jusqu'à l'ouverture de la télé, hein, la radio avait un poids énorme. Quand je partais en milieu rural, les villageois venaient vers moi comme si j'étais une reine, comme si j'étais la présidente de la République. Et vraiment, là-bas, quand on te dit, c'est la radio qui a dit. C'était la vérité qui était dite, la vérité. Donc, ça, c'est vraiment croyance religieuse à sa façon. Hein. Oui, c'est une religion aussi. Hein.
La radio.
Bien sûr, c'est une religion.
Bonjour. Ça va?
Oui, ça va.
Alors comment ça se passe l'émission là?
Ça se passe bien, on est là, tranquille, bien.
C'est quoi le sujet aujourd'hui?
Le sujet c'est la citoyenneté.
Ça fait combien de temps que vous êtes là? C'est Malik.
Oui, Malik.
Oui, Malik, c'est écrit dans le dos de votre maillot du Real, pardon.
Ouais. Ça fait maintenant 10 ans que je suis là. Oui, je suis venu ici en fin 2008, voilà.
Et pourquoi vous êtes venu à l'ORTM?
J'aime bien ça, j'adore ces métiers. Même avant ici, on faisait de petits trucs dans le quartier. Dans l'école, c'est moi qui animais des soirées, des faits comme un peu le disque joker.
Le disque joker.
Voilà.
Merci beaucoup,
merci,
Malik.
Merci.
Donc, Fatim Beki Ijorola. Fatim Ebita Soro Baraka Yorodo Be Hali Nyamaka Usai. Nokofe. Anyekombe Matiseka Dwakono. Do Eraka Biro Corona Ite Kuni Jufu Ido Ala.
Befregeleme.
Abefregeleme.
Abefregeleme.
Ordru Takono.
Tasao. Eminanoro. Et Teminon.
Fatouma Taj, j'ai remarqué que dans beaucoup d'émissions, il y a souvent deux co-animateurs. Même si des fois c'est surtout l'un qui parle ou l'une qui parle et l'autre donne la réponse seulement, un répondeur. On dirait que c'est vraiment un truc important ça aussi ici au Mali.
C'est important dans notre société, une seule personne ne doit pas rester en train de parler. Une seule personne a ses idées, mais quand vous êtes deux, vous pouvez échanger les idées, ça peut apporter un plus. Par exemple, tout à l'heure je suis en train de parler. Si Maurice Soumano était là, il allait dire oui. Ça veut dire oui, c'est ça. Ça veut dire ah. Donc on peut ajouter encore, on peut développer encore un peu plus. Donc
ça relance quoi, celui qui parle.
Ça relance quand l'autre dit c'est pour appuyer. Hein? C'est exclamation. Ça relance. C'est pour te demander encore de continuer de développer. Donc c'est très important chez nous.
Et puis il y avait la musique aussi qui était très importante. Pourquoi? Bien sûr il y a toujours de la musique à la radio, mais ici au Mali, on a l'impression que ça avait une force particulière.
La musique est tellement forte. La musique est puissante. La musique galvanise aussi. Souvent, il n'y a pas de parole. Hein. Il y a la musique qui dit tout, qui sensibilise. 5 minutes, la musique, et ensuite, on rajoute un tout petit peu. Voilà.
Que la musique elle-même, comme elle porte des messages, bon, ça dit déjà beaucoup de choses et ça complète votre propre discours.
Justement, souvent, nous complétons la musique. Et sinon, généralement, c'est la musique qui complète notre émission, nos propos.
Donc, qui complète qui?
Nous deux, on se complète.
Jérémy a promis le taxi. De quoi il parle à la radio là?
Bon, c'est l'éclat de rire.
Éclat de rire.
Voilà, éclat de rire. Parler l'ancien président là. Son nom quoi. C'est ça qu'il parle.
C'est quelle radio?
C'est, non, c'est les clés. C'est pas la radio.
Ah, c'est sur une clé USB.
Voilà, c'est les clés USB.
Et est-ce que toi-même tu écoutes la radio?
Moi aussi j'ai écouté ma radio.
Radio Mali?
Oui, j'écoute la radio Mali. Très bien.
Bon, justement, là, on va chez un doyen de Radio Mali.
C'est un doyen. Moi, je ne connais pas lui.
Ah, c'était un technicien, donc on l'entendait pas forcément à l'antenne.
Mmh. Voilà, on peut appeler maintenant, on est arrivé.
Oui. Voilà, le temps de repérer la cour d'un des plus anciens techniciens de Radio Mali, Youssouf Traoré, dit colonel, et nous voilà dans son salon. Monsieur Traoré,
oui,
on vous appelle colonel, pourquoi?
Ben, le mot colonel est venu parce que le ministre de la Communication à l'époque, le colonel Youssouf Traoré, comme c'est mon nom, moi, Youssouf Traoré, j'étais technicien à l'ORTM.
Il portait le même nom que vous, quoi?
Il portait le même nom que moi. Et on m'a collé l'étiquette de colonel comme ça. Sinon, je n'ai jamais fait une journée dans l'armée.
C'était quelle époque?
Depuis le coup d'État, 1968.
Et vous avez commencé comment la radio?
J'ai commencé à la radio comme aide-opérateur.
C'est-à-dire?
Nous, on répliquait les morceaux, les disques de Mali. Il y avait une émission à la radio qu'on appelait disques de Mali chaque dimanche. C'était une dédicace pour les gens qui voulaient demander des morceaux à leurs proches.
Monsieur Koulibaly Ali, instituteur à Kaï de passage à Bamako, dédie ses disques pour Dja Alassemi, Koulibaly Mpé, pour leur souhaiter une bonne semaine.
Tu n'as qu'un trésor, celui de tes 20 ans, tu n'as vu.
C'est Aseta qui était la présentatrice. On nous amenait les conducteurs, les morceaux demandés, et nous on répliquait ça sur une grosse bande.
Parce que tous ces morceaux-là, ils étaient sur bande.
Bande magnétique, oui.
Et les responsables, les présidents, vous les accompagniez aussi?
Moi, j'étais, oui. C'est moi qui ai resté les discours.
Le président?
Oui.
C'était stratégique, ça.
Même les messages à la nation. Mais c'était le chef de la section reportage. Donc, quand il y a un événement, automatiquement, on sonne dans mon bureau. On dit, apprête-toi, le président a une déclaration à faire. Moi, je ne sais pas combien de messages de Mourbou j'ai enregistré. Je ne sais pas combien de messages de Moussa Traoré j'ai enregistré. Je ne sais pas combien de messages de Alpha j'ai enregistré. Je ne sais pas combien de messages de ATT j'ai enregistré.
À la fin, vous connaissez bien.
Ah, et comment alors? ATT, moi, on s'est connus à Kidal. Parce que lui était le bureau rouge là. C'est eux qui encadraient le président. Et depuis, il m'appelle toujours colonel.
Lui qui est général.
Voilà. Quand il s'agit de la présence, on était deux techniciens seulement. Il n'amenait pas n'importe qui. Moi, mon premier voyage, c'était avec Mourbo, en Algérie.
Vous l'avez accompagné là-bas pour faire quoi?
J'étais porté en visite officielle. Sinon, j'étais avec Moussa Traoré à l'époque, la 35e session des Nations Unies.
À New York?
Oui. J'étais avec Moussa Traoré là-bas. Moi, j'étais jusqu'en Mongolie.
En Mongolie?
Oui, j'étais avec Moussa. Vous savez, le travail de la radio m'a permis de connaître le monde. J'ai voyagé beaucoup avec Moussa. Pendant ces 23 ans, j'ai voyagé beaucoup avec lui. Moi, j'ai eu la chance de parcourir le Mali, de Diboli, jusqu'à Abiy Barra, derrière Kidal. Moi, j'ai eu la chance de faire ça. Ça, c'est grâce à la radio.
Monsieur Traoré, quand vous rentriez à la maison, vous écoutiez encore la radio?
Ah, ouais, moi je ne peux pas aller sans radio. Moi j'avais trois postes ici. J'ai un poste dans ma toilette, ça c'est calé directement à RFI. Dans ma chambre à coucher.
Le baptême?
Oui. Partout où je vais dans ma chambre, il me faut un poste de contrôle.
C'est un poste de contrôle,
ah,
c'est ça?
Oui, oui. Des fois là, les jeunes là, quand ils font un mauvais démarrage, moi je les téléphone, je dis mais qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est pas comme ça qu'il faut travailler. Chaque fois je téléphone.
Vous continuez à...
Même demain. Ma vie, c'est la radio.
Bonsoir. Vers la fin de la première quinzaine du mois de juillet de cette année, je me trouvais au nouveau marché de Médinacroix. De gros nuages noirs et épais avaient commencé à couvrir le ciel depuis 9 heures. Ces gros nuages ne cessaient de se déplacer tantôt vers le sud, tantôt vers le nord, tantôt barraient carrément l'est. À 11 heures, il n'y avait pas encore une seule goutte d'eau sur ce sol desséché et poussiéreux. Cette eau qui doit faire réjaillir des sillons, les épis dont nous avons tant besoin. Malheureusement, ce dimanche-là, il n'y eut aucune goutte d'eau à Bamako.
Quand on entend ce reportage de Fadegui Sinaba sur Radio Mali, le pays est dans une situation difficile. Les sécheresses de la décennie précédente ont mis à genoux les agriculteurs et les éleveurs, en particulier dans le nord, dont les jeunes sans emploi tentent l'aventure en Algérie ou en Libye, accueillis à bras ouverts par le colonel Kadhafi. L'économie ne va pas très bien, on l'a compris. Après le socialisme de Modibo Keïta, Moussa Traoré, qui a oublié de rendre le pouvoir aux civils, libéralise l'économie, dit adieu aux francs maliens et revient aux francs CFA. Il écarte peu à peu les autres membres du comité militaire qui lui faisaient de l'ombre et, en 1991, après plus de 20 ans de pouvoir et de régime policier, sa popularité s'est envolée. La grogne monte, bientôt viendra la grève. L'écrivain Ousmane Diarra n'a pas 30 ans à l'époque. Et comme tant d'autres à Bamako, il a vécu intensément cette époque.
J'étais à Bamako, je travaillais déjà, mais à un moment donné, à Bamako ici, les années 1978, un enseignant avait du mal même à trouver une maison en location. Ils étaient mal payés, ils étaient payés en retard, etc. etc. Alors, je me souviens... L'école, l'ENSEC, qui formait les anciens du second cycle, collège, ils ont composé une chanson pour dire leur mal. Nana le Nkono, Nyondumbali, Manti, Fasobla, Nyanye, Nana le, l'oiseau qui ne mange pas 2000, mais on n'abandonne pas son pays à cause de la misère. Donc les enseignants souffraient trop. Et ça se répercutait aussi sur les élèves. Donc nous, on a grandi dans la volonté de combattre Moussa, parce que moi, je ne voulais pas être né sous un régime et mourir sous le même régime. Non, je voulais voir d'autres choses, le monde évoluer, etc., etc. Et je crois que c'était le cas pour la plupart des jeunes.
Là-dessus, c'était en mars 91, il y a eu une grosse répression.
Oui, il y a eu de longs mois, des manifestations, et ça s'est aggravé plus tard, quoi.
Bonjour, les titres de ce journal. Au Mali, l'armée a ouvert le feu ce matin sur une manifestation de femmes à Bamako. Hier, l'armée avait également tiré, faisant au moins 28 morts et plusieurs centaines de blessés. L'état d'urgence a été décrété dans le pays. Le président Traoré est prêchant la fermeté et offrant en même temps le dialogue. On attend pour cet après-midi la réponse des opposants.
Il y a eu une grosse répression. J'étais à toutes les marches à Bamako. On criait Moussa assassin. Quand les balles ont commencé à nous frapper, j'ai vu des gens tomber à côté de moi. Et je me suis rendu compte que c'est les anonymes qu'on tue. Le lendemain, je suis retourné. C'est pourquoi c'est très dangereux, les émeutes. La vue du sang versé, ça saoule. Ça saoule. Tu n'as plus peur. C'est pourquoi je suis ressorti, c'est pourquoi les gens ressortaient. C'est très dangereux, le phénomène des émeutes. Je pense qu'il faut les éviter autant que possible. Et ben c'est comme ça que je pense, les militaires ayant compris qu'il fallait arrêter l'effusion de sang, ils ont arrêté Moussa Traoré.
Lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré, le 27 mars 1980.
Déposé, sinon entamé un monopartisme qui n'a fait que nous créer des problèmes, qui nous a fait que tarir des talents, qui n'a fait que baïonner des bonnes volontés et qui n'a fait qu'enrichir un clan et une clique.
Aïssata, mais à la chute de Moussa Traoré, vous étiez encore au cœur de la radio, télévision. Donc racontez-moi comment vous avez vécu ce jour-là aussi, si vous voulez bien.
J'ai mal vécu ce jour-là. Je l'ai perdu. pendant les événements. Ma fille de 22 ans.
Elle était étudiante.
Elle était étudiante. Mais il se trouve que tout le quartier est sorti pour passer le pont. Au niveau du pont, là où il y a la statue, on a commencé à nous tirer dessus, les snipers et tout ça.
Vous étiez dans la marche, vous aussi?
Elle est tombée à 3 mètres de moi. Elle est tombée à 3 mètres de moi. Donc, comme on nous tirait dessus de trois côtés, on était obligé de prendre la route de l'ORTM. C'est sur cette route-là qu'elle a été fauchée. J'ai vu qu'elle m'a appelée, elle me dit « Maman, je suis blessée. » J'ai vu que le sang giclait. J'ai pris mon foulard pour attacher son pied. Le sang venait de là. Les véhicules qui étaient en train de transporter les blessés étaient complètement remplis. On a été obligé de l'amener en moto au niveau de l'hôpital. Une semaine plus tard, on nous a évacués. Elle a été blessée le 22 mars. On nous a évacués à l'hôpital Cochin, à Paris. Et c'est là qu'elle est décédée. Elle est décédée le lendemain de notre arrivée.
C'est un souvenir douloureux, c'est sûr.
C'est très dur, parce que vous savez, toutes les mamans qui ont perdu des enfants vous diront ça. On se dit toujours que c'est le meilleur qui s'en va. À l'âge de 22 ans, vous avez vu, c'est pas facile. J'ai mis du temps avant d'aller à la radio. C'était douloureux. C'est très, très, très dur. Essayer d'avoir, de cumuler mes congés avec les obsèques et tout ça. Il y a eu l'avènement de la démocratie. Donc, entre-temps, j'ai pu avoir un congé et reprendre. J'ai repris normalement, comme si de rien n'était. Comme d'habitude, chaque fois qu'il y a un changement, je reviens, je reste égal à moi-même. Oui.
C'était votre défense, ça?
Oui.
De rester égal à vous-même?
Toujours. Toujours.
La voix de Moussangaré sur RFI. Avec vous, on continue notre voyage dans l'histoire du Mali et de sa radio, Radio Mali, qui avec l'arrivée de la télévision publique en 1983, fera désormais partie du groupe ORTM, Office de Radio-Télévision du Mali. Mais revenons à l'histoire. En mars 1991, vous l'avez entendu, le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré, dit ATT, chasse donc Moussa Traoré. Mais contrairement à son prédécesseur, lui fait ce qu'il a dit. Il fait une transition courte, met sur pied une conférence nationale et organise des élections ouvertes, les toutes premières depuis l'indépendance. En 1992, Alpha Oumar Konaré est élu sans contestation. Et c'est dans cette période d'euphorie démocratique que s'ouvre l'espace médiatique et que naissent un peu partout des radios associatives ou privées. Qu'elles soient de ville ou de brousse, en moins de 10 ans, elles pousseront partout dans le pays et se comptent aujourd'hui par centaines. Pour la première fois de son existence, Radio Mali doit faire face à la concurrence. Fili Keïta est un acteur clé de cette histoire. Dès 1989, alors que Moussa Traoré est encore au pouvoir, il ouvrait la toute première radio associative du pays, Akaï, dans l'ouest du pays. Il deviendra plus tard président de l'URTEL, l'Union des radios et télévisions libres du Mali.
C'est vrai que la radio nationale, après l'indépendance, a joué un rôle positif. Mais la radio aussi était dirigée par des hommes politiques, par un gouvernement qui avait souci de l'information, de l'éducation à sa manière. Donc c'était une information verticale qui allait du sommet vers la base. C'est cet aspect unidirectionnel de la radio nationale à l'époque qui a été un peu sa faiblesse. Et les régimes, jusqu'à nos jours, utilisent un peu la radio nationale comme les prédécesseurs l'ont utilisé. Et c'est ce qui a contribué à aller vers le pluralisme radiophonique. Et aujourd'hui, Dieu merci, l'État a sa radio, les populations ont leur radio, chacun utilise sa radio selon ses moyens, sa conception. Nos amis de la radio d'État, ce sont nos confrères, ce sont nos amis. Souvent, ils ont contribué à nous former au niveau des radios privées, des radios libres. Mais je crois eux-mêmes sont conscients. La radio nationale, c'est la voix du Mali.
Avant la fin même de la transition de Amadou Toumani Touré, certaines radios libres ont commencé à émettre à Bamako. Bamakan, ensuite Radio Liberté, etc., etc. C'est après qu'il y a eu l'explosion là.
Il y avait comme un besoin de libérer la parole qui était restée enfouie pendant toutes ces années du régime de Moussa Traoré.
Oui, tout à fait. À un moment donné, j'ai tiré sur la sonnette d'alarme. J'ai écrit un article, je l'ai publié dans le Soudanais.
Un journal ici.
Radio libre, moyen d'épanouissement ou d'abêtissement du peuple.
Moyen d'épanouissement ou d'abêtissement
du peuple. Et j'ai développé que si on ne fait pas attention, ça va créer des clivages, ça va donner la parole aux plus sots. Quand les plus sots ont le monopole de la parole, ils ne peuvent que répandre la sottise. Ça, c'était mon inquiétude. Je suis un peu virulent. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de radios qui n'ont pas de programme, qui font du remplissage et qui ont amené des marchands d'illusions au plan religieux, hein, prêches, etc. Et même des charlatans qui viennent flatter leurs médicaments, etc., etc. Quelque part, ça a aggravé l'incivisme.
Mais du coup, t'es quoi, nostalgique de l'époque de la radio unique qui fonctionnait avec le parti unique?
Non, pas du tout. Pas du tout. On aurait pu mieux gérer la liberté des hommes. Quand on écrit un article de journal ou quand on écrit un livre, on tient compte de certaines choses, ce qui peut faire plus de mal, provoquer la guerre, racisme, tribalisme, etc., etc. On prend les précautions pour ne pas provoquer par notre écriture ou nos paroles ces choses-là.
Kibar kanoka yermo ahun yer se arajo mali.
Alors, si tu veux, on voit si le rédacteur en chef est là. Ou...
Ça va?
Bonjour.
Le bureau du rédacteur en chef.
Voilà, il est là.
Bonjour.
Et moi, je reçois des messages concernant ce truc. On demande s'il y a eu deux cas confirmés ici à Bamako. Je reçois depuis 7 heures des messages là-dessus, je ne réagis pas. Je ne suis pas une autorité, mais bon, les gens pensent que quand on est à l'ERTM, on peut répondre à cette question-là.
Ça, c'était début mars dernier, alors que le coronavirus qui se répandait en Chine et en Europe commençait à inquiéter le Mali.
Celui qui m'a ouvert les portes de la conférence de rédaction qui réunit chaque jour les journalistes de Radio Mali s'appelle Mahamadou Kone. Il a été formé dans les années 80 en URSS à la faculté Lénine de Tachkent, en Ouzbékistan. Quand il rentre au Mali en 1991, il trouve le pays en pleine transition. Journaliste, il va couvrir les premières élections libres et peu à peu occuper de nombreuses fonctions de direction, que ce soit à la radio ou à la télévision. Il verra donc passer le président Alpha Oumar Konaré de 92 à 2002. Il verra le retour, cette fois-ci par les urnes, du général Atété qui s'installe au palais présidentiel de Koulouba de 2002 jusqu'à ce qu'en 2012, une nouvelle rébellion Touareg, la quatrième depuis l'indépendance, se déclenche au nord. Dans son sillage, quelques semaines plus tard, des djihadistes prendront le contrôle des grandes villes du nord, comme Tombouctou et Gao, et des stations régionales de l'ORTM qui sont dans ces villes. Mais juste avant ça, à Bamako, des femmes de militaires manifestent. Elles protestent contre le sous-équipement de leurs hommes qui se font tuer au front. L'agitation monte. À Bamako toujours, Mahamadou Kone suit tout cela de son poste à l'ORTM.
Le 21 mars 2012... Vers 15h30, j'étais dans les bureaux du directeur général. Et paf, on entend des coups de feu. Donc les militaires dans les pick-up, donc, qui passent et qui rentrent directement dans la cour de l'ORTM et qui commencent à tirer en l'air. Donc, nous, on était là, bon, c'est dispersé, tout naturellement. Je dis, bon, je sors quand même. Je fais un tour voir ce qui se passe avec les autres. Ouais, je rencontre maintenant à l'étage les militaires avec des fusils qui nous demandent de rentrer à la maison tout de suite. Je dis d'accord, mais c'est pas compliqué. Évidemment, ils ont gardé quelques ingénieurs ou techniciens au niveau des antennes radio et télé pour pouvoir communiquer plus tard. Nous, on n'avait plus rien à faire ici ce jour-là. Et c'est plus tard dans la nuit qu'ils ont annoncé le coup d'État.
Face à son devoir de sauvegarder la force républicaine de l'État et les acquis démocratiques, le CNRDR, se réclamant des forces armées de défense et de sécurité du Mali, a décidé de prendre ses responsabilités en mettant fin au régime incompétent de M. Amadou Toumani Touré.
On est resté deux jours. Puis on est revenu, on a repris le service avec maintenant le nouveau pouvoir ou les nouvelles autorités. Les militaires qui étaient là, ils avaient même carrément un poste ici, dans la cour. Et ce qui nous a beaucoup choqués, parce que ce jour-là, bon, ils ne nous ont pas tiré dessus, mais ce qui nous a beaucoup choqués, ils ont tout pillé. Alors, ils sont entrés dans nos bureaux, ils ont cassé. Ils ont pris du matériel, ils ont premier choc. Alors, le deuxième choc, c'était le 30 avril. Parce que le 30 avril, il y a eu une tentative de contre-coup d'État, menée par les Bérets Rouges, le commando para, qui était proche de l'ancien président Amadou Toumani Touré, ATT. Alors, ce jour-là aussi, vers 18h30, je monte dans mon bureau, je vais écouter les informations. 10 minutes après,
encore.
Mais là, c'était vraiment la guerre. Parce que là, c'est les Bérets Rouges qui sont venus pour essayer de déloger les Bérets Verts, enfin, les partisans de Amadou Aya Sanogo, qui était le chef du CNRDRE, le comité de redressement. Hein. Alors, nous, on est restés confinés dans les bureaux. Heureusement, aucun de nous n'a été touché par une balle. Mais il y a eu des morts quand même. Il y a eu des militaires qui ont été tués ici dans la cour. Et moi, j'étais resté dans mon bureau. J'ai des collègues qui se sont retrouvés dans les studios. Comme là, c'est vraiment comme un bunker, là. Donc, c'est plus sécurisé. Et jusqu'aux environs de 20h30, de 21h. À ce moment, les Bérets Rouges, là, avaient pris le contrôle de la maison. Donc, ils sont montés maintenant dans les bureaux. On a un. Pour nous demander de rentrer. Donc c'est en ce moment qu'on est resté moins une semaine sans pouvoir travailler. Et quand on a repris, même quand on entendait une porte qui claquait, un véhicule qui claque son pneu, là on s'affolait parce qu'on était traumatisés.
Allô.
Il y a un nouveau collègue qui vient de rentrer. Vous pouvez nous le présenter?
Lui, c'est Ibrahim Ag Mohamed. Il présente le bulletin en tamashek.
Il a un magnifique chapeau de cow-boy.
Ah, effectivement. Il est en Django aujourd'hui.
En Django. Comment ça va?
Ça va bien.
Monsieur Ibrahim Ag Mohamed.
Bonjour, ça va?
Ça va, et chez vous?
Grâce à Dieu, ça va. Mettez-vous à l'aise.
Alors, on est devant d'ailleurs le...
La
théière, le plateau stratégique du thé.
Oui.
Ça, c'est important, hein. On ne perd pas ça même à la radio.
Oui, très important. Je commence par ça des fois.
Qu'est-ce qui vous a amené à la radio? Au départ, vous avez commencé par la radio, Ibrahim?
Je commençais par la radio ici à l'Ortem. Parce que j'étais à Gao, à la radio.
À la station régionale?
De Gao. C'est en 2012 qu'on m'a ramené ici à Bamako. Au départ, c'était une formation. Mais pendant que j'étais en formation ici, il y a eu l'annexion des villes du Nord, après le coup d'État. Donc, il n'y a plus rien à faire là-bas. La radio est tenue par...
Les groupes armés.
Les groupes armés. Donc, nous, on n'a pas accès à ça. Donc, on nous a retenus ici. Maintenant, en 2013, le directeur de l'époque a voulu que je reste faire le tamashek, parce qu'on ne peut pas laisser une tranche de la population sans information.
Surtout dans cette période-là.
Surtout à cette époque-là, surtout. Donc, on m'a ramené ici à la section langue et depuis, je suis resté.
Qu'est-ce que vous préférez dans votre métier?
Ce que j'ai vu dans mon métier, c'est mettre ma communauté dans ce qu'on dit ici chez nous, dans les bains. Leur dire tout ce qui se passe dans notre pays. Les informer de ce qui se passe ici à Bamako et ailleurs, dans le monde, en Afrique. L'expliquer dans ma langue à ceux qui ne peuvent pas le lire, je me sens utile.
Ça vous manque pas, Gao?
Ça me manque. Parce que c'est chez moi. Mais je suis chez moi aussi parce que nous sommes dans le Mali. Nous sommes tous au Mali ici. À Bamako, c'est Gao. Gao, c'est Bamako.
C'est le moment pour nous les Maliens de se parler, de savoir parler. À la radio surtout. Parce que ça brûle pas seulement au nord, hein. Ça brûle partout. Parce qu'on a des frères et des sœurs au centre, au nord. Donc c'est nous tous qui sommes dedans. Donc tout le monde doit savoir parler pour amener la paix, la cohésion sociale, l'éducation surtout dans le pays. Et dans nos langues, c'est important. Pas en français, hein. Mais savoir parler dans nos langues. Chercher à connaître ce qui est bien à dire en polar, en dogon, en sonraï, en tamashek. Il faut qu'on sache le faire pour pouvoir sensibiliser cette population qui est blessée dans sa chair.
Oui, FC, Fatoumata Koulibaly a raison. C'est tout le Mali qui est blessé dans sa chair. Les troubles et les attaques fratricides s'étant propagées au centre du pays. Eh Mali! Le long du fleuve, tous tes peuples ne sont-ils pas cousins? Cousins à plaisanterie, cette formidable invention qui fait que s'insulter pour de faux est bien mieux que de se fâcher pour de vrai. À Kidal, dans le Nord, l'ORTM n'a toujours pas repris le contrôle sur sa station régionale. Un des signes que l'État malien n'a pas repris ses droits sur la zone. Et les accords de paix attendent que les signataires soient d'accord pour être appliqués. Un mois avant le soixantenaire de son indépendance, le 18 août dernier, le Mali connaissait un nouveau coup d'État qui chassait le président Ibrahim Boubacar Keïta. Ça, Aïssata Cissé, la doyenne des animatrices et journalistes radio, ne l'aura pas vécu ici-bas. Elle a quitté la Terre en avril dernier, quelques semaines après notre rencontre. Que la Terre lui soit légère, autant que sa voix l'était à nos oreilles. Aïssata,
oui.
Vous écoutez toujours Radio Mali?
Oui, de temps en temps. Mais malheureusement, j'écoute souvent RFI.
Ah, la concurrence.
Oui, bon, c'est un peu pour ne pas être déconnecté du monde. Voilà, c'est ça. Pourquoi je n'écoute pas souvent l'ORTM? Parce que dans nos pays, la radio ou la télé est consacrée aux tenants du pouvoir. Vous vous rendez compte, tous les discours de ministres ou même de présidents qu'on passe ici, en France, ça ne se fait pas. vous ne pouvez pas écouter un ministre pendant combien de temps. Or ici, vous occultez une partie du discours d'un ministre, il appelle l'armée pour dire, mais on n'a rien entendu de ce que j'ai dit. Alors un journal qui fait 45 minutes, ce n'est pas possible.
Mais vous-même, quand vous étiez de l'autre côté, oui. Bon, c'était la même chose.
Oui, c'était la même chose, mais je n'appréciais pas. Je n'appréciais pas. On peut bien faire comprendre ce que la personne a dit pendant cet événement-là, sans pour autant nous gratifier. Des longs discours de 20-30 minutes. Oui. Mais vous savez, il y a aussi une chose que je critique. En Afrique, on aime toujours faire référence au président de la République. Ah, ça me fait très mal. J'entends souvent des ministres qui vous disent « Le président de la République nous a instruit d'eux sur l'initiative du président de la République. » Non, il faut qu'il sorte de ça. Il ne faut pas dire ça, hein, ça ne nous regarde pas. C'est pour causer.
On coupe ça.
Bon, vous savez, à 75 ans, on n'a plus peur de rien. Vous pouvez passer ce que vous voulez. Je n'ai peur de rien ni de personne.
Une dernière chose, Aïssata.
Oui.
Donc vous avez fait finalement de 59 jusqu'à 2006, c'est-à-dire 47 ans de radio, ça fait presque un demi-siècle de radio, c'est oui. Pas petit. C'est quoi peut-être votre plus beau souvenir de radio dans toutes ces années-là?
Mon plus beau souvenir? Le premier jour, je suis passé directement à l'antenne, c'est extraordinaire. Je n'oublierai jamais ça, c'est un très bon souvenir.
Et puis il y a des choses qui émeuvent aussi. À la radio,
oui.
Des fois c'est plus fort avec la voix. Je pense par exemple aux gens qui ont disparu, mm-hmm. On peut voir une photo, on peut même les voir en image, mais quand on a juste la voix,
oui.
En fait c'est comme si on retrouvait l'émotion de ce que nous on mettait dans la personne.
C'est vrai, vous savez que à l'OATM c'est ma voix qui passe à 6h du matin, à 8h, à 12h, c'est ça, c'est ma voix.
Vous écoutez l'Office de Radiodiffusion Télévision du Mali, émettant de Bamako.
Indépendance, les jours d'après, c'était une série de Vladimir Cagnolari et Laure Alari que nous dédions à Aïssata Cissé, grande dame de la radio et première femme journaliste au Mali. Un grand merci à l'ORTM et tous ses agents, ainsi que son directeur et sa sonothèque. Merci également aux précieuses équipes de la sonothèque de RFI et à tous ceux qui ont participé à ce reportage malien, ainsi qu'à l'ensemble de cette grande série. En podcast, vous pouvez d'ailleurs retrouver les autres épisodes de la série consacrée à la Côte d'Ivoire et le Congo RDC en tapant par exemple « Si loin, si proche » dans votre moteur de recherche. Céline Develay-Mazurel, Laure Alari, Vladimir Cagnolari, on vous dit à la semaine prochaine pour d'autres voyages. Et d'ici là, haut les cœurs et les haut-parleurs.